Bon, et bien bonjour à tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir quatre auteurs pour célébrer la collection Grand Destin de Femmes aux éditions Naïve. Je vous présente Laura Berg, qui est la scénariste de Marie Curie, Stéphane Soularue, qui est le dessinateur de Marie Curie, Michel Gazier, qui est au scénario de La Passionaria, et Bernard Ciccolini, qui est au dessin de La Passionaria. Cette collection, à travers la bande dessinée, cette collection retrace la vie et le parcours de femmes qui sont entrées dans l'histoire. De Coco Chanel à Françoise Dolto, en passant par Virginia Woolf, qui vous a réunis d'ailleurs tous les deux, Michel et Monsieur Ciccolini. Ce sont des portraits de femmes atypiques qui mettent en lumière des facettes assez différentes de ce qu'on connaît de ces femmes, des facettes moins connues qui nous les font découvrir autrement. Pour entrer dans le vif du sujet, comment se sont passées vos rencontres, comment sont nés vos deux projets? Alors, qui commence? Pour La Passionaria?
Allez, on y va. en fait, Bernard et moi, nous avions déjà fait ensemble Virginia Woolf et on a aimé travailler ensemble. Donc, quand Françoise Cruz de chez Naïve nous a proposé La Passionaria, on s'est dit oui. Alors, pourquoi elle nous l'a proposé? Parce qu'elle savait qu'on avait envie de retravailler ensemble. Et aussi parce que, disons, que j'ai fait pas mal de choses autour de l'Espagne et que j'ai enseigné l'espagnol. Je suis aussi d'origine espagnole. Mais bon, c'est pas tant ça que tout le travail personnel que j'ai pu faire sur l'Espagne. Donc, c'était des retrouvailles avec un personnage que j'avais croisé dans mes études. Et puis, c'était surtout l'occasion de reprendre comme ça une collaboration, un échange. Parce que moi, j'ai une admiration sans borne pour les gens qui savent dessiner. Moi qui ne sais pas du tout dessiner. Je crois qu'ils ont la chance de dire en quelques traits ce qu'on est obligé d'expliciter en grands paragraphes. À toi.
Non, peut-être à vous, là, pour votre rencontre.
On s'est rencontrés par l'entremise de Françoise Cruz, l'éditrice de Naïve, qui avait vu mon travail de bande dessinée ultérieure et qui avait l'histoire de Marie Curie, enfin de l'enfance de Marie Curie, contée par Laura. On s'est rencontrés à Nantes, chez Laura, enfin dans sa ville. Et on a beaucoup discuté sur notre façon de voir cette histoire. On était globalement très d'accord et puis on n'a pas arrêté ensuite de communiquer, d'échanger pour faire émerger ce projet.
Oui, ce projet sur Marie Curie. J'ai rencontré Françoise Cruz en publiant mon premier roman chez Naïve et j'ai aussi rencontré cette collection. J'ai vu les différentes propositions et les portraits de femmes et ça m'a vraiment donné envie consacrer un titre à Marie Curie et plus particulièrement à quelque chose qu'on connaît un peu moins de sa vie, plutôt son enfance et le début de ses recherches et comment elle est venue en France. Voilà, ce passage de la Pologne à la France m'intéressait particulièrement.
D'ailleurs, la corrélation qu'il peut y avoir justement entre La Passionaria et Marie Curie, c'est vraiment mettre l'accent sur leur enfance à toutes les deux.
À toutes les deux, à toute la collection, puisque c'est l'éclairage de toute la collection, l'enfance. Ces femmes ont effectivement des destins incroyables, apportent énormément à la société, à leur époque, mais toutes ont ensemble, qu'elles soient d'un milieu favorisé comme par exemple Virginia Woolf, ou très pauvre comme Coco Chanel, ou La Passionaria. Donc, est-ce qu'elles ont en commun, c'est aussi une difficulté en tant que femme à s'imposer dans des sociétés qui ne leur laissent très peu de place, à vrai dire, que ce soit au niveau de l'éducation et même au niveau après social, au niveau pour pouvoir monter socialement. Donc c'est ça qui nous intéressait, nous, d'éclairer cette jeunesse. C'est là où les gens se forment, c'est là où les caractères se font. Et puis de les accompagner, d'éclairer un petit peu après, effectivement, ce parcours professionnel qui les sorte du lot.
Et justement, pour raconter leur enfance, qui n'est peut-être pas connue du grand public, en tout cas moins que leurs travaux ou leur ambition politique, comment est-ce que vous vous êtes documenté? Quelles ont été vos recherches? Est-ce que vous êtes allé là-bas en Espagne et à Moscou pour la Passionaria, ou bien à Varsovie, en Pologne? Quelles ont été vos recherches? Comment ça s'est passé?
Commence pour la passionnariat. En fait, la passionnariat, c'est quelqu'un que j'avais rencontré quand j'ai fait mes études d'espagnol à Montpellier, puisque j'avais fait mon travail universitaire sur la guerre d'Espagne. Donc, je l'avais rencontré comme ça, et c'est un personnage qu'on n'oublie pas facilement. Ensuite, il s'avère que j'ai fait pas mal de traductions et que j'ai, entre autres, traduit, et j'ai été amie avec lui, Manuel Vázquez Montalbán, qui a consacré à la passionnariat un énorme livre, dont une partie seulement a été traduite en français aux éditions du Seuil. Et dans ce livre, il essaye de ressaisir ce qu'a été cette femme. Donc voilà, ça, c'était déjà la base du travail. Et puis, j'ai travaillé aussi avec les mémoires de la passionnariat, parce qu'elle raconte beaucoup de choses. Elle en tait aussi beaucoup, comme dans toutes les mémoires. J'ai croisé ce genre de choses. Et puis, ce qui était important, je crois, dans le travail qu'on a fait ensemble, c'est que dans une vie de femme politique, c'est pas très drôle, elle fait des discours. Elle écrit des discours, elle milite, mais ce sont des choses qui, d'un point de vue image, sont assez répétitives, finalement. Donc le travail, c'était de voir ensemble comment choisir dans l'itinéraire de cette femme des moments qui pouvaient être anecdotiques au bon sens du terme, c'est-à-dire dont la matérialisation par le dessin pouvait éclairer ce qu'elle était. Et donc voilà, c'était ce travail-là qui a été particulièrement important. Puis évidemment, j'ai travaillé sur pas mal d'origines de textes espagnols qui étaient sur Internet, et notamment pour la fin de sa vie. Vous posiez la question sur l'URSS. En fait, les archives ne sont pas encore ouvertes. Voilà. Donc, le voyage à Moscou n'était pas nécessaire.
Et vous êtes d'origine espagnole. Vous avez justement fait votre master universitaire sur la guerre civile.
Oui.
Le personnage était fait pour vous.
C'est ce qu'a dit Françoise, et je pense que c'est la raison pour laquelle elle nous l'a proposé. Mais je crois que nous sommes un peu dans la même situation, toutes les deux, parce que toi, tu as des origines polonaises, et que, en fait, et tu disais tout à l'heure que ce qui t'intéressait, c'était ce moment où elle passe la frontière. Et c'est en fait aussi l'histoire de ta famille qui a passé la frontière. Donc, comme moi, il y a quelque chose dans cette guerre d'Espagne où mon père s'était engagé de France. Mais je crois qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui nous ramène à notre histoire. Et c'est pour ça que je crois que c'était important.
Donc, de même, Laura Marie Curie était fait pour vous.
Oui. J'ai lu les biographies, celle écrite par F. Curie, sa fille, celle de Suzanne Quinn, Françoise Giroux. Mais ce qui m'a vraiment permis de savoir un peu mieux où je voulais aller, c'est les écrits de Marie Curie. Elle écrivait beaucoup, elle a eu une correspondance vraiment très, très riche avec ses proches, tout au long de sa vie, même avec ses filles ensuite, en polonais dans un premier temps, puis en français avec ses filles, avec son mari, mais même toujours en polonais avec sa famille. Et elle tenait aussi des journaux. Alors évidemment, il y a tous ces cahiers de recherche qui sont très intéressants, qui sont quand même très difficiles d'accès aussi. Elle écrivait aussi, alors à la naissance de ses filles, elle a tenu un journal où donc elle notait jour après jour leur poids, les premières fois, quand elle mangeait un œuf, quand elle se baignait dans la rivière, quand elle avait une dent qui... Voilà, c'était très touchant parce que je trouvais que c'était à la fois très une observation très rigoureuse, très scientifique, et en même temps, c'était plein de tendresse. Et puis, il y a des lettres beaucoup on la sent beaucoup plus passionnée, un peu nostalgique de ses origines. Et le journal qu'elle a tenu à la mort de Pierre Curie, où elle lui écrit des lettres pendant plus d'un an, Cette écriture m'a vraiment, enfin là, on la redécouvre beaucoup plus fragile et bouleversée et en même temps passionnée vraiment. Et ces écrits m'ont donné aussi une image différente des portraits que je voyais d'elle, où on la voit. C'était l'époque aussi où prendre une photo, les temps de pose étaient assez longs, c'était sérieux, c'était pas tous les jours qu'on se faisait photographier. Donc ces images de Marie Curie, pour moi, étaient assez différentes. Il manquait, voilà, j'avais envie de les qu'elles s'animent, qu'elles prennent qu'elles prennent des sens au sens, voilà, des sens puis des couleurs, voilà, que ça. Et le voyage, donc j'ai été à Varsovie pour 6 jours à peu près, faire des recherches et donc aux archives de Varsovie, et rencontrer une guide, voilà, spécialiste de la Marie Curie dans sa période polonaise et des lieux qu'elle a fréquentés. Donc là, j'ai vraiment pu aussi voir la ville avec essayer de me représenter quelque chose du climat, des couleurs. Par exemple, l'université volante qu'elle a fondée, mais ça, on y reviendra peut-être plus tard, avoir d'autres détails, c'est pas forcément très connu. Voilà, donc tout ça, j'ai essayé ensuite bien de le communiquer à Stéphane pour justement essayer de... Et ça, la couleur aussi que tu as utilisée le donne vraiment le mouvement. J'ai trouvé dans ton dessin quelque chose que je voulais vraiment essayer de faire passer dans l'énergie et la sensibilité, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement vivant. Voilà. Et c'est pas forcément ce qu'on va voir dans les portraits qu'on va trouver aux archives en noir et blanc où elle pose.
Alors justement, par rapport au dessin de Marie Curie, j'imagine que vous avez utilisé les crayons de couleur. C'est bien ça, je me trompe pas. J'imagine qu'il y avait une raison. C'est vous qui avez décidé d'utiliser cette technique-là.
Oui, j'aurais pu utiliser bien d'autres techniques. Donc, c'est d'abord un goût personnel. C'est pas le crayon de couleur qui est adapté à Marie Curie à proprement parler. Mais dans la documentation que me donnait Laura sur Marie Curie, dans les petites histoires et puis toute la vie et l'énergie qu'on sentait dans ce personnage et qui dépassait de loin l'image d'Épinal un peu figée justement que j'avais d'après des photos que tout le monde connaît où Marie Curie pose avec des tubes à essai. On avait envie de dépasser cette image et d'aller chercher ce qui faisait que ce personnage est absolument unique dans sa détermination, dans sa réflexion sur les autres, sur la société, dans ses engagements. Le crayon de couleur, ça me permettait de mettre beaucoup d'énergie, d'être à la fois dans la couleur et le dessin. Donc c'est ça que je cherchais. Ce n'était pas de dessiner et ensuite de mettre la couleur, c'était de mettre la couleur pendant que je dessinais. Et du coup, de gagner, je pense, en énergie, en vitalité. En vitalité. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça dans notre projet, sans qu'on se le soit dit clairement dès le départ. Je crois qu'on a fait le pacte de travailler ensemble parce qu'on a senti qu'on voulait donner ça sur Marie Curie. Voilà.
Mais c'est très bien rendu, puisque à la lecture de l'ouvrage, moi j'ai vraiment senti cette vitalité de Marie Curie, cette volonté de vivre, cette sensibilité aussi. Je trouve que ça rend très très bien justement votre
Merci.
Travail. Et effectivement, c'est ce que vous disiez, ça montre une autre facette de Marie Curie derrière ses éprouvettes, ses tubes à essai, etc. Je voulais revenir sur la passionnariat. Vous nous racontez plus la figure politique de la passionnariat que la vie de Dolores Ibaruri. C'est une volonté de votre part, j'imagine.
Sinon, on m'aurait demandé la biographie de Dolores Ibaruri. Or, on nous a demandé la biographie de la passionnariat, c'est-à-dire qu'on nous a demandé le mythe, pas la réalité. Alors, pour arriver à peindre le mythe, il nous a semblé important de raconter l'enfance, de l'amener jusqu'au mythe et au-delà. En plus, la vie de Dolores Ibaruri, comme vous l'aurez remarqué, elle a quand même vécu 38 ans en URSS, on ne sait à peu près rien de ce qui s'est passé pendant ces années-là. Donc, le personnage de la femme, celle qui s'est finalement fondue au-delà de l'histoire, bon, on ne la connaît pas, mais ce qu'on connaît qu'est-ce qui reste ? C'est la femme qui s'est engagée, qui s'est battue. Et je crois que le portrait de cette combattante, avec toutes les réticences qu'on peut avoir sur sa manière de mener sa barque, etc., parce qu'il y a des critiques à faire. C'était ça le problème aussi. On s'est beaucoup interrogé sur la manière, notamment dans la guerre d'Espagne, mais peut-être qu'on y reviendra, le rôle qu'elle a pu jouer à un certain nombre de face aux anarchistes ou face aux trotskistes que le Parti communiste quand même a fait en partie exécuter. Enfin, bon. Donc c'était difficile de faire un personnage comme ça, tout simple et tout lisse, même si c'est une figure tout à fait remarquable. Elle est remarquable par tout ce qu'elle a fait, par la manière dont elle est sortie de son milieu toute seule, dont elle s'est faite toute seule. Ça, c'est, voilà, cette image-là, publique, c'est la passionnariat. L'autre, je ne sais pas qui c'est.
Et justement, en moins de 100 pages, oui. Quelle a été la difficulté pour vous de raconter toute une vie ? Quels ont été vos partis pris ? Quels ont été vos choix pour parler de tel ou tel moment de leur vie ? Comment ça s'est fait ?
Je crois que la chose la plus difficile, c'était d'essayer de rendre compte de l'histoire de l'Espagne, parce que c'est quand même l'histoire de l'Espagne et l'histoire de la guerre d'Espagne qu'on n'étudie jamais en classe, et donc que les Français, d'une manière générale, peut-être moins dans cette région où on est proche de la frontière, ne connaissent rien. C'est-à-dire que si vous vous promenez dans la rue, vous demandez qui est la passionnariat à une génération de trentenaires ou même de quarantenaires ou même pire, enfin plus âgée, pire, je ne sais pas. je ne suis pas sûre qu'ils vont vous dire qui c'est. Donc, essayez de dire le plus de choses possibles du contexte dans lequel elle apparaît. Essayer de rendre compte de ce qu'a pu être cette guerre dont, évidemment, le souvenir s'est estompé. Et je dois dire qu'on n'a rien fait pour le conserver en France, hein, du reste. Donc, avec Bernard, on s'est interrogé sur comment aller à l'essentiel, comment ne pas être dans la répétition des scènes, comment essayer de faire passer un peu de cette histoire d'Espagne sans multiplier les noms, parce que comme les gens ne les connaissent pas, si on multiplie les noms des gens politiques, ça devient incompréhensible. Donc, à la fois être simple et passer. Et je dois dire que vous parliez des couleurs ensemble. J'aimerais que Bernard parle du travail sur les couleurs, parce que je crois que beaucoup de choses qu'on a voulu dire sont passées par là.
Oui, c'était une de mes prochaines questions, justement.
Pardon.
Non, mais sans problème, vous l'avez très bien introduite.
Oui, donc, côté couleurs, donc on a simplifié, là aussi, toute la partie enfance qui est... la partie en famille, famille nombreuse, peu d'éducation, impossibilité de poursuivre des études, misère, espérance de vie, pas de couverture sociale non plus. Enfin, tout est laminé totalement pour ces gens-là. Puis pas d'espoir non plus de s'en sortir. Donc toute cette enfance, donc on l'a traitée d'une manière très, très grise, donc très sombre. Toute la partie, effectivement, après militantisme et puis guerre d'Espagne, donc là, c'est beaucoup de rouge. Donc on a fait une cassure comme ça dans le récit. On a gardé quand même tous les ciels très bleus partout pour de l'espoir.
Ça, c'est très bien. Et pour Marie Curie, alors ?
Les 100 planches, c'était une très grosse contrainte et en même temps, c'était intéressant. Parce que justement, moi, j'ai vraiment souhaité qu'on se consacre au début de sa vie et de sa carrière, quitte à ne pas tout dire, quitte à ne pas aborder certaines choses. Et il y a vraiment des périodes passionnantes de la vie de Marie Curie dont on n'a pas parlé et que je vous invite à découvrir par ailleurs. Mais si on l'avait fait, on aurait risqué un résumé et je ne voulais pas. Je pense qu'il valait mieux. C'est un peu le terreau, c'est d'où elle vient. Et ses engagements, je pense que ce qu'elle va faire par la suite s'explique aussi par cette enfance vraiment atypique. Et Marie Curie a été 5 ans gouvernante en Pologne pour envoyer de l'argent à sa sœur Bronia qui étudiait la médecine à Paris, parce qu'elle n'avait pas l'argent d'étudier toutes les deux à Paris, de partir étudier toutes les deux, et parce qu'en Pologne, elle ne pouvait pas poursuivre ses études. Et d'ailleurs, la Pologne était sous domination russe. Donc, imaginez que, alors qu'elle avait tellement de curiosité, qu'elle bouillonnait d'idées, elle rêvait même d'aller à Varsovie, au moins avec l'université volante, continuer ses études, elle a été gouvernante. c'était pas toujours très enrichissant pour elle. Elle étudiait la physique la nuit, elle avait rien pour faire ses expériences, donc ça a été une période de frustration assez importante. Et pourtant, elle l'a fait, et c'est ce pacte avec sa sœur aînée l'a accueillie ensuite. Ça en dit beaucoup sur la personnalité de future Marie Curie. Je pense que c'était quelqu'un qui s'engageait réellement et qui avait, en tout cas pour ses proches, un amour sans borne et une... Voilà, ce qu'elle a fait ensuite, ça éclaire par exemple ce qu'elle a pu faire pendant la Première Guerre mondiale. Elle venait enfin d'avoir l'Institut du Radium, un lieu consacré à ses recherches. C'était un aboutissement pour elle, je pense. Enfin, elle en parle en tout cas avec plus de d'effervescence et de joie que les prix Nobel. C'était vraiment pour elle, avoir un lieu pour ses recherches, c'était le nerf de la guerre, hein, vraiment. C'était... Et au moment de la Première Guerre mondiale, elle a décidé de quitter l'Institut du Radium et de partir sur le front parce qu'elle pensait qu'en équipant des véhicules avec des appareils de radiographie, les chirurgiens seraient plus efficaces, évidemment, pour opérer les soldats blessés. Mais elle a fait ça pendant 4 ans. Elle a entraîné sa fille de 17 ans. Voilà, elle l'a formée pour qu'elle forme à son tour des médecins alors que les lieux étaient dangereux, alors que les femmes ne pouvaient pas conduire de voiture dans ces zones-là. Et cette période est passionnante, j'en parle, et elle apparaît très peu dans la bande dessinée, mais tout ce qui a conduit voilà, à prendre ce type de décision, pour moi, son enfance l'explique. Voilà. Et son enfance n'étant pas... Et je voulais aussi insister, cet engagement qu'elle a eu pour la France... elle est arrivée à 24 ans, enfin à la veille de ses 24 ans. Et cette femme qui a eu 2 prix Nobel n'était pas voilà, française native. Et c'est pour aussi rappeler ce que cette ouverture et la France en tant que terre d'accueil, de quelle manière on s'est enrichi à accueillir voilà, des chercheurs, des intellectuels, et même voilà, à accueillir simplement ceux qui cherchaient sur le sol français. Pouvoir mener leur vie de manière libre et leur recherche librement. Ça, c'était important aussi. C'est aussi l'époque qui m'intéressait.
Alors, oui, elle n'est pas française, elle est polonaise. Malgré tout, on lit Victor Hugo à la maison. On parle polonais à la maison.
Oui.
Ses parents, qui sont instituteurs tous les deux, leur donnent une éducation qui est, j'ai l'impression, très chère à Marie Curie. En tout cas, ça l'a vraiment formée. C'est une espèce d'éducation clandestine, justement, dans les écoles publiques russifiées, comme vous dites dans l'ouvrage. Cette éducation clandestine, justement, elle a continué cette éducation avec l'université volante.
Oui.
Je voulais justement que vous reveniez sur ça. Vous en aviez parlé, vous en aviez touché deux mots tout à l'heure. Vous êtes partie en Pologne et votre guide vous en a parlé de cette université volante ?
Oui. C'est-à-dire que je connaissais le principe, mais on trouve peu de documentation sur cette organisation qui a presque 5000 femmes se sont formées de cette manière à la fin du 19e siècle. Et Marie Curie, enfin Maria Skłodowska à l'époque, a été une des pionnières, hein, vraiment, de cette université. C'était le parrain de Bronia qui prêtait les livres, qui était... et donc des lieux accueillaient des femmes qui ne pouvaient pas aller à l'université. Les accueillir, ça pouvait être des appartements, des écoles, voilà, généralement des gens qui étaient attachés à la nation polonaise. Et des professeurs également qui s'étaient fait renvoyer souvent par l'administration russe ou qui ne pouvaient pas enseigner tel qu'ils le souhaitaient voilà, dans les universités à Varsovie. Et donc, elle suivait une scolarité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait tout un programme de 5 ans. Et c'était très ouvert sur les idées voilà, qui bouillonnaient en Occident. Enfin, voilà, c'était le positivisme, les idées de Darwin. On échangeait beaucoup de choses autour de toutes ces idées qui arrivaient. Et donc, on lisait Victor Hugo, mais on lisait... Il lisait l'anglais, le français et l'allemand sans traduction dans sa famille. C'était les séances de lecture, c'était important. Et elle lisait très bien le français quand elle est arrivée en France, mais elle ne le parlait pas très bien. Ça a été une de ses difficultés, c'est qu'elle avait du mal à comprendre vraiment bien parce qu'elle avait plutôt un rapport écrit à la langue française. Mais elle maîtrisait la langue quand même déjà.
Et à l'inverse, la passionnaria, qui était très douée à l'école, n'a pas pu continuer ses études alors que son institutrice a demandé à ses parents qu'elle continue. Ses parents n'ont pas voulu. Ils lui ont dit à 15 ans, tu as 15 ans, tu vas apprendre un métier et tu vas gagner ta vie. Pourtant, son amour des livres, elle s'est vraiment battue pour avoir sa propre éducation et jusqu'à se former sa sensibilité politique. Et on ne connaît pas vraiment le... En France, je pense qu'on ne connaît pas vraiment Dolores Ibarruri. On ne connaît pas vraiment la passionnaria. On connaît surtout le « no pasaran ».
Bien sûr. Et c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Non, ce n'est pas drôle du tout. Parce que « no pasaran », mais ils sont passés. Et donc, ce « no pasaran » renvoie à un échec, celui de la guerre d'Espagne, quoi qu'il en soit. Donc, mais c'était, je crois que ça a cristallisé tellement d'espoir à un certain moment. Et puis, que c'était la résistance. Voilà. Et je pense que ce qui est intéressant dans cet itinéraire de la passionnaria, c'est justement ce côté résistante qu'elle a. Parce qu'elle résiste malgré tout à sa famille. Bon, ils l'envoient, ils ne permettent pas qu'elle fasse des études, mais elle va se faire prêter des livres, elle va commencer à écrire. Elle se forme absolument toute seule. Elle se forme dans des livres politiques. C'est aussi la raison pour laquelle elle a ce profil de femme politique complètement. Son engagement est totalement politique. Et Victor Hugo. Parce que Victor Hugo est quand même dans son éducation et dans son voilà, Victor Hugo, c'est le refuge. Elle l'écrit dans ses mémoires et c'est assez touchant parce qu'elle a une vie épouvantable. Elle fait 6 enfants et elle en perd 5. Enfin, elle en perd 4 petits et un en Russie pendant la guerre de 39-45. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le dénuement matériel le plus complet. Elle épouse un homme qui est un militant. Et on est dans la mine, hein, on est dans le nord de l'Espagne et elle appartient à une famille de mineurs. Et donc, on est mineur de père en fils. Et les femmes de mineurs doivent être des femmes de mineurs. On ne discute pas ce genre de choses. Donc, elle doit être une femme de mineur. Elle épouse un mineur qui est militant. Mais malgré tout, le militant homme ne voit pas pourquoi sa femme serait militante. Voilà. Et elle se retrouve, malgré l'éducation qu'elle acquiert, malgré sa volonté politique, etc., elle se retrouve dans une position de femme de mineur à s'occuper des enfants. Les enfants, son mari est en prison en permanence parce qu'il prend la parole et que c'est une période où on rigole pas avec ce genre de choses. Donc, il se fait mettre en prison. Et elle se retrouve avec des enfants, le mari qu'elle va voir en prison. Et malgré tout, elle poursuit son chemin de lecture de textes politiques et puis d'écriture, puisqu'elle commence à écrire alors que son mari est en prison et qu'elle a déjà perdu un ou deux de ses enfants. Et elle écrit son premier texte politique, Un vendredi saint, et elle le signe La Passionaria à cause de la passion du Christ. C'est une chose que... Voilà,
et qu'elle, au début, elle ne pouvait pas signer de son nom, j'imagine.
Elle ne peut pas signer de son nom, elle n'est personne de toute façon dans ce voilà. Donc elle signe la passionnaria et donc jusqu'à la fin de sa vie finalement, on va s'interroger sur ce rapport qu'elle peut avoir à la religion. Et je crois qu'elle a de toute façon vécu son communisme et son militantisme comme une forme de religion, avec ou sans Dieu. À la fin de sa vie, on se demande.
Et pour son amour des livres, il y a un passage où ils ont perdu la guerre, oui. En 1939. Oui. Elle doit s'exiler, oui. Et elle préfère brûler un livre qui lui est cher, oui. Plutôt que de le laisser aux mains ennemies. C'est La baraque de Blasco Ibáñez. Alors, qu'est-ce que c'est que
La baraque de Blasco Ibáñez, c'est un roman. Alors, je ne vous dirais pas que c'est dans la littérature espagnole mon livre de chevet. C'est un livre très, très romantique. C'est une écriture très romantique, avec beaucoup d'amour, beaucoup de pleurs, beaucoup de... C'est un peu midinette quand même. Hein, mais ça décrit aussi la situation des gens dans cette région de Valencia. Ça se passe dans la région de Valencia. Et ce sont ces gens qui vivent une certaine pauvreté aussi. Donc je pense qu'elle était aussi sûrement assez romantique. Et quelque chose de ce romantisme-là lui plaisait. Mais c'est aussi un livre qui dénonce une situation économique et une situation sociale assez, plus que assez, très difficile.
Malgré leur déracinement à toutes les deux, elles ont gardé un amour très fort pour leur patrie. On le voit surtout sur Marie Curie, où Elle apprend le polonais à ses filles et quand elle découvre ce nouvel élément chimique, elle décide de l'appeler le polonium.
Oui. Ouais.
C'est quelque chose de prégnant vraiment dans la vie de Marie Curie je pense que vous l'avez bien montré, vous avez voulu évidemment le montrer dans cette bande dessinée.
Oui. Et c'est quelque chose que Pierre comprenait, que Pierre Curie comprenait, et lui-même a appris le polonais. C'est très charmant d'avoir des... J'ai vu des extraits de petits mots qu'il lui laissait. C'était des phrases un peu très bien construites. Je pense que le fil rouge vraiment de l'histoire que je voulais raconter pour Marie Curie, c'est son rapport aussi à l'éducation, comment elle s'est formée. Et pour elle, la Sorbonne, c'était vraiment... elle en rêvait. C'était quelque chose... Paris, c'était... pour elle, elle a tout fait pour y aller. Et elle a fait ses études à la Sorbonne. Elle a ensuite mené ses recherches. Et je pense que sa relation avec Pierre Curie toutes les idées qui vont conduire à la découverte du phénomène de la radioactivité, c'est une part importante de cette bande dessinée. Mais la fin de la bande dessinée, au niveau du récit, c'est vraiment le moment où, à la mort de Pierre Curie, elle est extrêmement triste, on imagine qu'une femme veuve est triste, mais elle perd avec Pierre Curie plus qu'un compagnon, plus que son amour, elle perd aussi son compagnon de recherche, et le père de ses enfants, elle vit vraiment quelque chose de dramatique. Et à cette époque, elle est la seule à pouvoir prendre la chaire de Pierre Curie à la Sorbonne, parce qu'elle connaît ses recherches, parce qu'elle en a les compétences. Et donc, on lui propose le poste de Pierre Curie et elle devient, donc à la fin de cette bande dessinée, la première femme professeure d'université en France. Et pour elle, c'est un moment dramatique parce qu'elle devient professeure à la place de son mari. Elle a écrit vraiment ce qui m'a donné envie de finir de cette manière, ou en tout cas que ce soit un élément important de l'histoire, c'est quand elle écrit, elle écrit à son mari, tu aurais été tellement heureux de me voir à cette place et malheureusement, j'y suis à ta place. Enfin, elle l'écrit autrement, c'est un peu le message. On la voit ensuite justement ouvrir une école pour ses enfants et les enfants de ses amis à la Sorbonne, pour des enfants d'une dizaine d'années. C'était aussi une grande pédagogue, Marie Curie. Elle a donné des cours de physique à des enfants d'une dizaine d'années. On a retrouvé les cours de physique d'une de ses élèves. Ils ont été publiés récemment. C'est très clair et ça fait penser, justement, cette éducation assez atypique qu'elle a reçue, où il était beaucoup question de manipuler, de s'intéresser à beaucoup de choses, d'aller observer les animaux, de faire de la gymnastique. Rien n'était laissé au hasard. Rien n'était, en tout cas... Tout était matière à s'intéresser et à s'ouvrir. C'était vraiment pas que les sciences et les lettres, par exemple. Elle a eu une éducation très, très vaste. Et on voit dans les cours que c'est presque une pédagogie qui peut ressembler aujourd'hui à des pédagogies qui ne sont pas toutes nouvelles, mais qu'on va dire alternatives, comme Montessori ou Freinet, avec quand on les voit démonter une balance pour voir comment ça fonctionne avant de s'en servir. C'était vraiment l'idée. Et c'est ce que j'ai senti aussi en lisant les cours qui ont été pris par une de ses élèves pendant ses cours de physique pour des enfants où elle était déjà prix Nobel. Donc elle expliquait vraiment les bases de la physique à de jeunes élèves.
Cette avidité de savoir de Marie Curie ou de la passionnariat, on la retrouve un petit peu dans tous les destins de femmes de cette collection. Absolument. Elles veulent s'élever intellectuellement, à force de travail, elles veulent être maîtresses de leur destin, elles sont éprises de liberté, elles sont finalement toutes féministes. Bernard Ciccolini, vous en avez fait 4, vous en avez dessiné 4, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, automatiquement.
Est-ce que vous avez un petit côté féministe aussi, alors d'en avoir fait 4 cette collection?
Oui, certainement. Mais effectivement, c'est le but de cette collection, c'est de montrer l'apport qu'elles peuvent faire aux femmes, justement par leur combat, et qui les dépasse même largement, puisque c'est, en fin de compte, c'est un apport aussi pour toute l'humanité au niveau de leurs travaux, au niveau des avancées sociales qu'elles peuvent proposer. Et donc, c'est vraiment des... Effectivement, elles sont remarquables.
Et toutes dans leur genre. Coco Chanel en mode, Marie Curie sur la physique, la chimie. C'est éclectique.
Tout à fait. Oui, c'est la collection. C'est notre histoire à tous, à toutes.
Alors, comment collaborez-vous, chacun, le scénariste et le dessinateur, comment est-ce que vous collaborez? Qui propose quoi? Comment ça se passe?
Moi, je laisse parler Michel. Ça commence comme ça. Donc, elle me raconte la passionnariat. Et effectivement, elle est romancière. Alors, à la fois, il y a tout ce côté romanesque dans ce qu'elle peut raconter. Il y a aussi toute la rigueur parce qu'elle était journaliste. Et puis, bon, il y a aussi ce savoir qu'elle a aussi de faire passer parce qu'elle était enseignante. Donc, je bénéficie de tout ça d'un coup. Et ça me permet donc effectivement au démarrage, avant qu'on ait fait quoi que ce soit, déjà d'avoir une image un peu générale et puis déjà des anecdotes sur ce personnage. Et bon, ça permet effectivement après, on avance après par étapes, on se voit une fois par semaine. Et puis une fois par semaine, on en rediscute, il y a un espèce de chemin de fer qui est fait. Et puis c'est là où on discute après de quelle importance donner à chaque scène par rapport à ce qu'on veut raconter et mettre en avant. Donc c'est un travail qui se fait après, qui se déroule. Voilà. Mais au début, il y a une grosse discussion sur le fond qui est très importante.
Et Michel Gazier, vous êtes improvisé scénariste de bande dessinée. Ce n'est pas votre métier premier.
Non, mais...
D'habitude, un scénariste de bande dessinée propose un storyboard. Est-ce que vous utilisez ça ou pas du tout? Justement, vous avez un échange oral et après, Bernard Cicognini...
Non, j'écris quelque chose. Pour pouvoir avoir une base de discussion et puis pour qu'il ait sa place, pour qu'il trouve les images, pour que dans ce que je dis, il faut qu'il le voie. Il doit transformer mes mots en images. Donc, j'écris un texte cursif. Et à partir de là, quand on discute, on va faire c'est lui qui voit les images, qui voit le découpage. Donc, et on décide ensemble de ce découpage-là. Mais bon, moi, je le suis sur le découpage parce que lui sait faire. Moi, je sais raconter, mais lui, il sait raconter autrement que par des mots. Et donc, mais je crois que ce qui est important, c'est la première fois où je travaille à peu près 3 mois avant qu'on s'y mette. Toute seule. Et quand on commence, et que j'arrive avec mon histoire, mes histoires, là, c'est lui qui prend le relais et qui travaille, puisque le dessinateur, c'est un énorme boulot à partir de ce moment-là. Donc, voilà, on s'ajuste à partir d'un certain moment, mais il y en a une, moi en l'occurrence, qui commence avant et lui qui continue bien après. Parce que bon, voilà. Et alors, ce qui est formidable, c'est que toutes les semaines, il m'apporte les dessins, le crayonné de ce qu'on a discuté la semaine d'avant. Et c'est absolument merveilleux de voir comme ça les choses avancer. Et j'ai un gros, gros faible pour le crayonné.
Stéphane et Laura, comment ça se passe pour vous?
Ça s'est passé d'abord parce que Laura avait beaucoup écrit déjà sur l'histoire. Donc j'avais quelque chose de solide, de très découpé, très écrit, mais qui laissait beaucoup de place pour un découpage personnalisé, quoi, pour que je puisse exprimer quelque chose avec le dessin. Je crois que la rencontre s'est faite sur du texte d'abord. Ensuite, je lui ai envoyé des dessins. Ça s'est fait sur des visages des personnages et de Marie Curie, pour qu'on soit d'accord sur l'intensité qu'on voulait donner au personnage. Là, on est tombé d'accord assez vite. Et ensuite, c'est de manière plus classique, un découpage, un storyboard réalisé à partir d'un découpage écrit par Laura et une réalisation des planches au crayon. Enfin, voilà.
Est-ce que tous les deux, vous avez rencontré des difficultés pour mettre en image, mettre en dessin des moments, des détails. Je pense aux travaux de Marie Curie dans son avec Pierre Curie derrière ces petits mince, je trouve pas le terme. Comment ça s'appelle? C'est une j'ai un trou.
Le quartz piézoélectrique.
Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça, c'était difficile pour vous de le mettre en image ?
Oui, c'était difficile. Il y a plusieurs parties qui étaient difficiles. Il y a les parties très didactiques où il fallait qu'on comprenne ce que pratiquaient Pierre et Marie Curie dans leur laboratoire. Le quartz piézoélectrique, je le découvrais complètement. Peut-être que vous savez très bien ce que c'est le quartz piézoélectrique, mais il y en a une explication justement dans la bande dessinée où j'ai essayé de faire comprendre les différentes étapes de recherche. Et les outils qui étaient utilisés, qui étaient assez sommaires mais très ingénieux, qui étaient fabriqués par Pierre Curie au départ, et qu'ils ont utilisés dans leur petit atelier plein de courants d'air. Ça, c'était plus rigolo à dessiner, les ateliers pleins de courants d'air. Ce qui était intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a des moments où la science est vraiment le centre de ce qui fait la connexion entre Pierre et Marie. Dans leur recherche, ils sont ensemble, ils pensent qu'à ça, nuit et jour. Et il y a d'autres moments dans le récit qui sont plus romantiques, je dirais. Et je pense qu'il y a une part assez romantique des personnages, alors peut-être la passionnariat aussi, mais pour Marie Curie, en tout cas, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que sa résistance au réel, son abnégation, sa puissance de recherche et de résistance, c'était porté par, je pense, une forme de romantisme et de désir de liberté, de connaissance. Donc, ce qui m'a intéressé à travers le dessin de ces moments scientifiques, didactiques, c'est tout ce qu'il y avait autour aussi, c'est-à-dire une entente, un amour, une considération, et un désir, un idéal qui les dépassait. Voilà. Toujours cet idéal qui était plus fort qu'eux, plus fort que même leur simple addition.
Et Bernard, est-ce que vous avez rencontré des difficultés autant sur des détails pour Stéphane derrière ces tubes à essai? Est-ce que vous, la difficulté, ça a été...
Elle était autre, la mienne, parce que...
Et oui. Comment raconter Gallica ou ce genre de choses?
La semaine suivante, et qu'elle me donnait la suite. Et là, c'était à nouveau un grand meeting. Alors, j'ai encore là une foule à dessiner. Oh là là. Et puis après, c'était suivi par une manifestation. Oh là là, encore du monde. Et c'était comme ça tout le temps. Mais heureusement, il y avait des choses aussi rigolotes, puisque quand même, il y a de l'humour. Il y a de l'humour dans tout. Dans toute cette période très, très dure, il y avait quand même des moments assez drôles. Et donc, on les a pas ratés, je crois.
La prison, c'était drôle, alors que c'est pas drôle, la prison. Mais
c'était un personnage tellement quand même investi. Quand elle se retrouve dans la prison des femmes, où elles sont toutes soit faiseuses d'anges, soit prostituées, soit bon, voilà, ce sont des droits communs. Et elles se font très maltraiter par les gardiens. Et elle leur dit, mais soyez communistes. Et elle va complètement les retourner. Et elle a une manière de faire, en tout cas, voilà, où quand elle se retrouve avec, comme directeur de prison, le frère de Antonio Machado, qui est un des plus grands poètes espagnols, et c'était Manuel, son frère, qui était poète aussi, qui est directeur de prison. Et là, c'était amusant de les mettre en scène, parce qu'elle sait parfaitement qui il est, elle sait très bien, elle aime sa poésie en plus. Et lui n'ose pas, a beaucoup de respect pour elle. Bon, mais elle est en tôle, et c'est lui le patron, quoi. C'est lui le tenier.
Et vous, oui, pardon, allez-y.
Oui. Alors après, il y a une autre difficulté, mais qui est pour tout le monde, pour toute la collection, c'est que en 100 pages, il faut prendre le personnage à 5-6 ans et l'amener au terme de sa vie quasiment. Donc, elle va le personnage, c'est pas Astérix qu'on reconnaît avec son petit casque et ses petites ailes. Là, bien évidemment, il va changer de physionomie toutes les 3 pages. Donc, c'est très, très dur.
Les femmes vieillissent très vite chez nous.
Oui. Elles ont une garde-robe réduite aussi, mais enfin bon.
Vous avez fait appel à des recherches iconographiques, j'imagine, pour la dessiner.
Oui, mais c'est pareil que pour vous. Il y en a très peu, à vrai dire. Ouais. Les photos de meeting, elles sont floues, prises de loin, pas sous un bon angle. On a dit grande et maigre sur la photo, elle semble petite et grosse. Enfin, donc, c'est pas évident à faire. Donc, effectivement, on rassemble beaucoup de choses. On va dans... je suis allé un petit peu en Espagne aussi, Pays Basque, pour voir. Mais on n'en a jamais assez, à vrai dire. Alors, on fait avec ce qu'on a, à un moment donné, et puis on se débrouille.
Ce qui est important, c'est le climat général et qu'il y ait une tenue et qu'effectivement, que ce que l'on veut raconter, ce qu'on veut faire passer, ben, on y arrive et il faut que ça passe.
Et ça fait appel à votre imagination aussi, à tous les quatre d'ailleurs, puisque les deux scénaristes, vous vous êtes axés sur des recherches documentaires, sur leurs écrits, etc. Mais il y a forcément un petit peu de vous, de même que pour les dessinateurs. Il y a de vous là-dedans. Il n'y a pas que l'histoire de Marie Curie et que l'histoire de la passionnariat. Tout n'est pas véridique. J'imagine que vous avez mis un petit peu de vous, un petit peu de fiction.
Je pense que dans tout travail en bande dessinée, il y a la nécessité, pour faire un album intéressant, une histoire prenante, d'avoir pied dans le réel. Et je pense que la documentation de part et d'autre était riche et conséquente. Et aussi de créer des personnages, c'est-à-dire de s'appuyer sur les personnages historiques, mais pas de chercher une copie conforme. Plutôt d'extrapoler, de trouver le personnage qui incarne le mieux l'histoire qu'on raconte. Alors c'est un peu compliqué, mais quand je parlais tout à l'heure du visage de Marie Curie, les premiers dessins que j'ai proposés à Laura, c'était Marie Curie jeune. On a très peu de photos de Marie Curie jeune, des photos floues, oui, ou pas très évidentes. On ne sait pas de quelle couleur les yeux sont exactement, les cheveux non plus. Donc j'ai extrapolé vraiment beaucoup. Et je pense pas que ça abîme le personnage de Marie Curie. Je crois, j'espère en tout cas, que, au contraire, ça apporte quelque chose de sa personnalité qui n'était pas forcément visible sur les photos telles qu'elles sont livrées aujourd'hui. Et donc, on a affaire à un personnage historique et un personnage de fiction, il me semble.
Oui, je pense que ça, c'est très juste. Et quand j'ai vu les dessins de Stéphane, les premiers dessins, et le regard de ce personnage, je me suis dit, ah, je vais pouvoir écrire différemment. Il y a des choses que je vais pouvoir retirer parce qu'il va les montrer. Et le fait de voir ces dessins et de savoir avec qui j'allais travailler, qui allait dessiner, ça a vraiment permis pour moi d'alléger l'écriture et d'être beaucoup plus en phase avec ce que je faisais. Ça a vraiment démarré à ce moment-là. Et je pense, par rapport aux difficultés, la question que tu posais tout à l'heure, donc la difficulté, en effet, pour les recherches scientifiques, le directeur du musée Curie m'a montré le fonctionnement de leur système de mesure avec le quartz piézoélectrique. Donc c'était très parlant de le voir, mais pour Stéphane, vraiment c'était... quand je disais sur cette planche, il faut qu'on comprenne comment fonctionne le quartz piézoélectrique. Et c'est aussi le coup de foudre entre Pierre et Marie Curie. Voilà, ça c'est quand même...
Mais c'est très bien représenté dans la BD. Hein. Ouais. On sent vraiment l'amour derrière les éprouvettes, les tubas.
Et je pense qu'il y a un autre souci que j'ai vraiment, qui n'était pas toujours évident à faire passer, c'est justement, je rebondis sur le mot féminisme. Aujourd'hui, on va parler de Marie Curie comme d'une féministe. Je ne pense pas qu'elle se soit revendiquée comme telle. Et je pense simplement qu'elle s'est accordée les mêmes droits qu'un homme. Et que là où les femmes n'avaient pas la possibilité d'aller, elle a décidé qu'elle irait quand même si ça prenait du temps, même s'il fallait que sa sœur l'aide et qu'elle aide sa sœur. Enfin, voilà. Elle a trouvé les moyens, quitte à faire quelque chose d'illégal. Après tout, si elle trouvait ça juste, elle le faisait. Et je pense qu'elle s'est donné les moyens de suivre ses choix, ses orientations, mais qu'elle s'est finalement... Enfin, en tout cas, cette question, je l'ai peu sentie dans ses écrits. Et je n'ai pas senti... elle était beaucoup... Enfin, son engagement était plutôt humaniste, au sens large. Et autre chose, je pense que, par exemple, elle se disait nationaliste, patriote. Pierre parle de son patriotisme. Mais je voulais que ce mot soit justement apprécié par un lecteur français, parce qu'on n'a pas la même conception, nous, du nationalisme. La Pologne était depuis 60 ans sous occupation russe, et c'est un pays qui a traversé presque 170... Enfin, c'est énorme, quoi. Sur les 200 dernières années, ils ont été occupés... Je pense que la langue polonaise a continué à être transmise dans les maisons de manière aussi... c'est une forme de résistance, voilà. Et ça, je voulais qu'on le... C'est pour ça que, par exemple, j'ai utilisé Victor Hugo. Je sais que la famille lisait Victor Hugo, mais cette scène n'a pas été relatée comme telle dans des écrits sur Marie Curie. Mais je me suis dit que Victor Hugo, pour moi, c'était la possibilité de faire comprendre à un lecteur français que ce nationalisme était aussi de l'ordre d'un engagement qui n'était pas proche d'un, d'un mouvement, par exemple, d'extrême droite. Voilà, c'était... c'était
Et de cracher sur la statue du tsar à chaque fois qu'elle passe devant, ça aussi, c'est... C'est quelque chose d'engagé.
Mais on la voit aussi lire Dostoïevski. Ça c'est vraiment intéressant dans sa personnalité. C'est-à-dire qu'elle ne supporte pas l'autorité du tsar. Elle remet en cause complètement l'invasion russe, mais elle continue à lire des auteurs russes. Et ça, c'est une ouverture d'esprit qu'elle aura toute sa vie. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant aussi de voir le contenu de ses recherches. À un moment, ils ont soupçonné bien sûr la dangerosité du radium. Ils en ont été les premiers. À en souffrir, mais elle a, le discours de Pierre Curie pendant leur prix Nobel aborde cette potentielle dangerosité en disant aussi que l'humanité, ils espèrent voilà, que l'humanité va en tirer plus de bien que de mal. Et je pense que ça, c'est aussi au cœur de leur réflexion, cette espèce de foi en l'être humain. Et elle avait vraiment le souci de dégager l'homme de la pénibilité de son travail, qu'on aille vers la connaissance, vers les sciences, pour vers une vie intellectuelle plus riche. Tous, en fait, c'était un moteur dans ses recherches et ses lectures et ses idées. Et ce qu'elle a transmis également à ses enfants.
En ce qui concerne la passionnaria, la construction narrative où l'histoire commence sur la fin de son exil, elle rentre en Espagne. J'imagine que c'est un parti pris, que c'est complètement volontaire.
Oui, bien sûr, parce que comment raconter la vie de quelqu'un où, en fait, toutes les grandes choses qui se sont passées pour elle, après elle a été militante, mais dans l'ombre, et elle a plus ce premier plan, s'est arrêtée. Tout ce qu'elle a fait donc de grande visibilité et qui font qu'elle est la passionnaria pour nous encore, ça s'est arrêté en 1939, avec l'échec, enfin la perte la guerre et l'arrivée du franquisme, enfin l'avènement du franquisme. Donc elle part et elle va rester de 39 jusqu'à 78, c'est-à-dire la mort de Franco. Elle va partir, elle va être en Russie. Alors elle va pas rester en Union soviétique tout le temps. C'est son port d'attache. Elle va se balader, elle va continuer à militer. Elle fait de la radio, elle est la voix de la radio espagnole. Elle va souvent à Toulouse. Elle va beaucoup en Yougoslavie, mais ce sont des choses dont on a comme ça des points. C'est comme des points sur une carte, des punaises qu'on peut mettre sur une carte. Mais en fait, on n'a pas de récit global de ces temps-là. Donc, comment raconter ça? Si on le suit dans la continuité, on se retrouve avec une espèce de gros vide. Or, c'est quelqu'un qui va vivre jusqu'à 95 ans ou 96, je ne sais plus. Donc, c'est quand même... On ne peut pas la tuer trop tôt. Et à la fois, on ne peut pas ne pas dire qu'elle revient. Parce que c'est dans le discours et dans la pensée, elle a toujours pensé qu'elle reviendrait et qu'elle aurait la peau de Franco qui mourait avant elle. Et il est mort avant elle. Elle a vécu, je crois, 8 ou 9 ans après lui. Donc, c'était très important. Donc, comment arriver à le raconter? Et il m'a semblé que cet envol de l'aéroport de Valence pour Valencia, pour aller en URSS, on vient la chercher, on l'enlève parce qu'il faut la protéger. Et ce retour à Madrid en avion, donc ces deux avions bouclent quelque chose qui est sa vie, qui est une énorme parenthèse dans sa vie. Et donc, il nous a semblé que partir de l'aéroport où elle s'en va, elle prend l'avion pour rentrer en Espagne, donc elle rentre dans l'avion et elle s'endort. Et elle revoit toute sa vie. Et elle se réveille au moment où elle atterrit sur le sol espagnol. Voilà. Et donc, ça permettait de faire les deux boucles. Et j'aime beaucoup les flashbacks, parce que je trouve que ça permettait aussi, c'est une chose qu'on s'était dit tous les deux, ça permet de sélectionner des choses. La mémoire est très fantaisiste, elle est éclectique. Et si on veut garder une continuité comme ça, on a le sentiment que c'est une mise en perspective. Tout est un récit. Vous parliez tout à l'heure du fait que qu'il y avait quelque chose de romanesque. Effectivement, ça n'est pas la réalité pure. Même la plus stricte des biographies, c'est une lecture de la vie de quelqu'un. Et il nous a donc semblé que cette manière de la laisser revoir les épisodes importants. C'était pour nous, ça facilitait le récit de ces événements importants, ceux qui l'ont amené à devenir ce personnage, cette figure de la femme qui a dit « non pas Salane ». Et même s'ils sont passés, elle est restée comme celle qui s'est battue.
Et elle est revenue.
D'ailleurs,
on voit... Le dessin de son visage au tout début, on voit vraiment toute la, pas la misère du monde, mais en tout cas les difficultés qu'elle a eues, la vie compliquée qu'elle a menée. Ça, c'est très bien représenté, je trouve, au tout début. Et alors là, la question me vient comme ça, mais c'est le petit potin qu'il y a dans la bande dessinée. L'une des hôtesses de l'air dit justement, elle a un visage fatigué, on sent qu'elle a vécu des choses difficiles. Et l'autre dit... Mais c'était pas la maîtresse de Staline.
Oui, c'était.
Alors, est-ce que c'était vrai ?
Mais alors, est-ce que c'était vrai ? Je n'étais pas dans le lit de Staline, comme vous pouvez l'imaginer. Mais une chose est vraie, c'est que ça a été beaucoup dit. Alors, je pense que ça n'a pas été la maîtresse de Staline. Je ne pense pas. Elle les aimait, je crois, beaucoup plus jeunes. Mais voilà, comme ça, c'est une petite parenthèse. Mais je pense que en revanche, elle l'a toujours vénérée. Elle n'a jamais rien dit contre. Et on a gardé ce moment parce que comment faire passer notre problème, ça a été de dire on ne peut pas la faire toute blanche, toute parfaite. Elle ne l'était pas. Elle a été très contestée et il y a encore des gens qui la contestent et sûrement à juste titre. Elle a fait ce qu'elle a cru bon de faire, mais ça n'a pas toujours été aussi simple et aussi blanc-bleu que ça. Donc, comment arriver à faire percevoir cette distance critique parce que ce n'est pas une hagiographie et ça ne voulait pas être une hagiographie. Et donc, une des choses qui s'est beaucoup dite sur elle en Espagne, c'est « Oh, c'était la maîtresse de Staline ». Donc, voilà, le faire dire comme ça. Et il y a de temps en temps des moments où on essaye de s'éloigner du récit hagiographique, ou en tout cas pour donner un petit peu de la profondeur de ce personnage, dont finalement, on ne sait pas grand-chose et c'est tellement vrai que on s'est dit qu'il fallait à la fin une chronologie de la guerre d'Espagne parce que on peut pas comprendre les choses s'il n'y a pas ce point de repère. Et puis moi j'ai éprouvé le besoin d'écrire un petit texte qui est hors image pour dire voilà. Finalement, on ne sait pas trop. Il y a plein de choses qu'on ignore. Elle ne répond pas aux questions. Elle a écrit ses mémoires, mais elle les a sélectionnées. Elle a choisi des choses qu'elle a eu envie de raconter, pas tout. Et on est dans le politique. Le politique, c'est quand même le sujet d'un débat. Et je crois que j'ai eu envie de laisser une ouverture pour qu'il y ait la place d'un débat et qu'on puisse ne pas être d'accord avec ce qu'elle est. Et que même si on a de l'empathie, ça n'est pas une hagiographie.
J'ai lu sur Internet, en faisant quelques petites recherches, que Sigmund Stein, qui a écrit « Ma guerre d'Espagne », alors je le cite, « la considère comme une idole fabriquée par l'appareil de propagande soviétique, sans dénier ses qualités humaines ». Est-ce que vous pensez vraiment que
alors,
c'était...
C'est plus compliqué que ça, parce qu'avant qu'elle ne soit la passionnaria de l'Union soviétique, celle qui est la grande figure, elle a été quelqu'un qui a mouillé sa chemise. Donc, elle l'a vraiment mouillé sa chemise, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans sa jeunesse, dans ses engagements. Au moment de la guerre, elle était déjà sous contrôle soviétique, c'est absolument évident. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui pour faire passer un certain nombre d'idées qu'elle avait, s'est laissé tout à fait volontairement embarquer dans une histoire politique dans laquelle on sait quand même ce qui est advenu ce qui s'est passé sous Staline. Or, elle n'a jamais dit. Elle n'a jamais protesté contre Staline. Et pour essayer de dire à quel point elle était quand même soumise, on a raconté cette anecdote où le journaliste qui l'interroge à la fin de sa vie et qui est un dessin de Manuel Vázquez Montalbán, Bernard a repris le Montalbán qui l'a effectivement interviewé. Et puis c'était pour moi aussi un petit clin d'œil à quelqu'un qui n'est plus, qui était un de mes amis.
Et donc, il lui pose des questions, il essaye de, et il lui dit mais comment c'était avec Staline, et elle lui dit oh bah c'était quand j'ai été malade, et il a dit au médecin vous la guérissez. Et on comprend très bien que si, je crois que s'il la guérissait pas, c'était le goulag. Voilà.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle est encore considérée comme une icône en Espagne? Puisqu'on parlait de ces facettes, cette double facette, son côté obscur. Est-ce que, puisqu'en France, bon, j'ai l'impression qu'on ne la connaît pas vraiment. Est-ce qu'en Espagne, c'est vraiment une icône?
Non, je pense que ça reste une icône pour les gens du Parti communiste, hein, effectivement. Je pense qu'elle est une des figures majeures. Elle est une des figures de la guerre. Et même, quelle que soit l'issue de cette guerre, quel qu'ait été son rôle, la contestation qui a été faite à son rôle, etc., elle reste cette figure-là. Elle est revenue, donc elle n'a pas fait grand-chose, parce que c'était quand même une très vieille dame. Je pense qu'à l'intérieur du Parti communiste, elle est du côté des saints. Oui, mais dans le fond, la passionnariat, elle a pris son nom dans le religieux, donc il y a oui, quelque chose de l'ordre du... je pense qu'elle a représenté beaucoup pour des gens, mais ces gens-là sont sûrement morts maintenant. Donc, les images succèdent aux images. Je ne suis pas sûre que quelqu'un qui a 30 ans aujourd'hui en Espagne et qui milite à gauche... considère qu'elle soit encore une sainte à prier, mais il ne peut pas ignorer qu'elle a existé. Hein, comme je lui fais dire, confieso que vivido, j'avoue que j'ai vécu, ben oui, elle a vécu.
Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux, comme voilà, elle a dit. Bon, merci à tous les quatre.
Merci à vous.